Mercredi, c'était donc le mercredi des cendres, qui est la journée de l'ouverture du carême, une invitation à nous mettre en route pour cheminer jusqu'à Pâques, la grande fête des chrétiens, le Christ ressuscité. Mais voilà, pour vivre pleinement cette fête, il faut vivre tout un tas de purifications, de délaissements, pour vivre au mieux cette rencontre avec le ressuscité. Tout au long de ce carême, nous vous proposons de revisiter, en même temps que nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, de revisiter la liturgie. Qu'est-ce qui se vit à chacune des messes que nous célébrons? Il faut savoir tout d'abord que la liturgie est une langue à part entière. Si nous ne la comprenons pas, si nous comprenons, oui, nous nous ennuyons bien souvent. La base de la langue liturgique, c'est le symbole. Tout est symbolique. Tout a une signification. Tout prend sens. Et d'un bout à l'autre, nous sommes bien impliqués dedans, c'est-à-dire qu'il y a la réponse régulière de l'assemblée vis-à-vis du prêtre. Si nous loupons ça, voilà, on assiste à la messe. Or, nous n'avons pas à assister à la messe, nous avons à venir célébrer. J'aime dire que quand on me demande, ah, est-ce que c'est vous qui célébrez la messe? Je dis non, c'est le peuple de Dieu qui célèbre. Pour ma part, quand c'est le cas, je préside, mais c'est l'ensemble qui célébrons. Et tout d'abord, ceux qui viennent à la messe, ce n'est pas une bande d'amis, en tout cas pas au départ. C'est simplement des personnes qui ont été convoquées. Ce que veut dire l'Église, c'est être convoqué par Dieu. C'est Dieu qui appelle, et ceux qui entendent bien cet appel répondent, et donc viennent à l'invitation, à la convocation. Et donc ce sont des gens un peu à l'image des 12 apôtres que Jésus appelle au départ de son ministère, des gens très différents. Ils n'ont pas le même style, ils ne sont pas du même clan social, on va dire. Ils n'ont pas les mêmes idées, pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes visées même de ce que devrait être le Messie. Ils vont être obligés de cheminer, ils vont apprendre à se connaître pour mieux se respecter. Donc ceux qui viennent ici à la messe, ce sont des gens, voilà, qui au départ, dans la vie entre guillemets normale, n'auraient peut-être rien à vivre ensemble. Mais c'est le fait d'avoir vécu une expérience avec le Christ, de l'avoir reconnu comme notre Sauveur, notre Dieu, notre Messie, que nous reconnaissons que oui, nous sommes frères et sœurs selon sa grâce et la grâce du baptême. Et c'est pour cela que nous venons d'une grande diversité, appelés, convoqués par Dieu, que nous y répondons. Comme dit un des chants assez populaire pendant un temps, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Et nous sommes en Église chez nous. Chaque membre de ce corps est la pierre de construction. Et donc le prêtre commence bien sûr par le signe de croix pour nous laisser accueillir par Dieu, se connecter, on peut dire, en termes techniques, on se connecte vraiment à Dieu ensemble. C'est l'assemblée qui se connecte pour recevoir le maximum la grâce de l'Esprit. Durant la liturgie, quatre fois le prêtre dira: Le Seigneur soit avec vous. Et l'assemblée a à répondre, et avec ton esprit. C'est-à-dire, vraiment, on est à l'essentiel, une chose importante qui doit se vivre. C'est au tout début, pour vraiment faire corps, corps du Christ, au moment d'écouter l'évangile, puisque c'est la parole même du Christ qui va être là, Au moment du début de la prière eucharistique, là encore, le Seigneur soit avec vous. Donc on n'a pas à être distrait, à se dire ben, j'attends que ça se passe. J'ai à être totalement investi dans ce qui va être vécu à ce moment-là. Et juste avant la bénédiction, le Seigneur soit avec vous. Et encore une fois, et avec votre esprit, c'est-à-dire que l'assemblée dit hey, sois bien là présent à ce que tu fais, toi le prêtre. Ce va-et-vient pour constituer un seul et unique corps qui va vivre une chose identique, avec nos diversités. Les textes de notre liturgie du jour nous évoquent l'un des très très grands mystères de l'existence, la présence du mal. C'est avec le livre de la Genèse, où Adam et Ève se laissent séduire par le serpent, par le mal. Et j'aime dire tout de suite que souvent nous aimerions trouver la racine du mal, alors que la sagesse de la Bible nous représente la venue du mal dans le symbole du serpent, celui qu'on n'entend pas venir, qu'on ne voit pas venir, qui nous mord et qui de suite s'en va. Si je me mets à chercher l'origine du mal, je risque très très fort de tomber dans ces méandres et de m'y perdre. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Sauveur est celui qui vient nous sauver du mal, c'est-à-dire qui vient nous sortir des griffes de ce mystère qu'est le mal. Un autre point, parce qu'on va le revoir en finale de l'Évangile, lorsque Dieu met l'humain, homme et femme, dans le paradis, il lui met tout un tas d'arbres avec des fruits, et ils vont découvrir que ces arbres, enfin ces fruits, ont l'air savoureux et délicieux. Et lorsque le mal va piéger en premier Ève, quand elle va regarder non plus tous les fruits du jardin, mais le seul fruit qui était défendu, elle va dire « Oh, combien il a l'air savoureux et délicieux !» Elle avait oublié que tous les autres arbres, enfin tous les fruits des arbres, des autres arbres, elle disait exactement la même chose. Donc le mal nous piège sur un point de focalisation, et on ne voit plus que cela, et on croit que si je n'ai pas cela, je ne pourrais pas vivre en plénitude. Et donc nous verrons à la fin de l'évangile qu'il y a cette question-là. Donc une fois que nous sommes entrés en liturgie, que nous nous sommes tous rassemblés, mis sous l'appel de Dieu, en y répondant, en nous ouvrant à l'Esprit de Dieu, la première chose que nous allons faire, c'est la démarche de pardon. Je me rappellerai toujours un jeune ami qui me disait « Oh, mais franchement, quand même, en Église, on est toujours en train de demander pardon, toujours en train de reconnaître que nous sommes pécheurs. » Et c'est vrai que plusieurs fois dans notre liturgie, on va revenir sur cet élément qui nous constitue d'être des êtres pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui loupe sa cible, c'est-à-dire que nous avons à avancer vers Dieu. Et malheureusement, très souvent, le mal va nous faire prendre des chemins de travers, et qui sont des impasses. Une fois encore, combien en Église on aimerait que tout le monde pense ou prie ou vive la foi comme nous-mêmes nous l'avons expérimenté. Et on est très rapide à critiquer les différents autres groupes de l'Église, par exemple, ceux qui ont une autre sensibilité, une autre manière de concrétiser leur foi ou pas, et ainsi de suite. Donc on est plus fort dans la critique, donc déjà dans la division, et c'est pour cela que dès le début de la célébration, nous avons besoin de recevoir l'essentiel de ce que Dieu veut nous offrir, son pardon. Et le pardon ne peut être offert que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants. Ceux qui disent « moi, j'ai pas de problème », il les laisse aller. J'ai à reconnaître qu'il y a ce mal fondamental en moi qui m'empêche d'être tout à Dieu et qui va susciter de la division, de l'aigreur avec les autres. L'évangile nous met en scène la rencontre du mal par excellence, puisque c'est Satan qui est là, et Jésus, c'est-à-dire Dieu, en face à face. Le mal va tenter par trois fois de piéger Jésus. On peut déjà noter une des particularités du diable. Le diable, c'est celui qui divise, hein, diabolos. Il connaît très bien la Bible. Il connaît très bien la parole de Dieu. Et il s'en sert. Plutôt que de se mettre à l'écoute de la parole, il se sert de la parole pour se servir lui-même, pour imposer son point de vue. On peut parfois rencontrer des gens avec qui on fait forte discussion, verset contre verset, comme me disait mon prof d'exégèse, qui avait dans sa propre famille un témoin de Jéhovah. Donc un jour, ils ont discuté tous les deux, et il a dit, on a passé une soirée à faire du ping-pong, verset biblique contre verset biblique, mais ça n'apportait aucun fruit. Parce que à chaque fois, c'était la question de « je veux faire comprendre que mon point de vue est le meilleur vis-à-vis de la parole de Dieu et vis-à-vis de l'autre. » Et donc, ça n'avait porté aucun fruit et qu'on ne peut pas discuter parce qu'il n'y a pas une aptitude de recherche fondamentale de qui est Dieu. À quoi nous appelle-t-il? Il nous invite à faire quelle conversion? Voilà, donc le propre du mal, c'est que souvent, par le biais de bonnes intentions, par le biais de bonnes paroles, il essaye plus de nous mettre en avant nous-mêmes que de nous mettre à suivre Dieu, à suivre le Christ. Il va le tenter par des besoins fondamentaux qui sont en nous. La question du jeûne, ben j'ai besoin d'être nourri, bien évidemment. J'ai un besoin de sécurité. Et puis j'ai un besoin de reconnaissance. Et ce sont sur ces trois points-là que le mal vient tenter Jésus et qui vient nous tenter chacun d'entre nous. La diversité de nos problèmes, de nos soucis, de nos difficultés, si on va rechercher au plus haut, ça peut très souvent rejoindre ces trois tentations de base. Jésus y répond le plus succinctement possible en contrant la parole du diable et en restant fondamentalement attaché à Dieu. Et alors que le mal, en finale, n'aura plus de moyens pour tenter Jésus, qu'il va se retirer, et d'ailleurs Jésus est très clair, hein, arrière Satan, voilà, donc t'as rien à faire avec moi, c'est ça qui nous invite sur la question du mal. Est-ce que je suis vindicatif là-dessus, clair, net, pas de mal avec moi? Car combien de fois nous ressassons le même problème? Nous ressassons sans cesse l'autre qui nous a fait du mal. Et donc à chaque fois, on s'en remet nous-mêmes une couche. On devient complice du mal qu'on a reçu. Et Jésus, il est très clair. Arrière Satan. À chaque fois qu'il aura affaire à des possédés, dans les évangiles, dans ces différentes rencontres, ce sera toujours la même attitude. Tais-toi, dehors. Est-ce que nous avons cette radicalité vis-à-vis du mal qui nous empoisonne? Et alors, tout à l'heure, je vous évoquais le fait que Ève avait dit que tous les fruits des arbres avaient l'air d'être savoureux et délicieux. Là, Jésus, il a renoncé aux sollicitations du mal, et une fois qu'il est parti, il aurait pu rester vraiment
dans le manque de la faim, dans l'insécurité et être connu par personne. Eh bien, voici la fin de cet évangile. Voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Les anges, ce sont les envoyés de Dieu. Donc, Dieu a reconnu Jésus. Les anges le servent. C'est donc la question de la sécurité. Si les anges sont à mon service, j'ai vraiment rien à craindre. Et quand ils le servent, c'est-à-dire qu'ils le nourrissent. Donc le besoin fondamental de nourriture est comblé. Ceci pour dire qu'une fois qu'on arrête le combat vis-à-vis du mal, qu'on renonce vraiment à tel ou tel projet que je pensais absolument indispensable sur ma vie, si je suis capable de m'en détourner pour regarder ailleurs, et principalement regarder le chemin de Dieu, alors à ce moment-là, ce que je recherchais dans une certaine direction, il va m'être offert ailleurs. Et souvent, dans notre chemin spirituel, on voit cela même dans nos vies concrètes. On cherchait, à un moment on accepte de renoncer, donc il y a vraiment une démarche de renoncement à vivre, et pouf, on arrive à trouver un autre chemin. Saint Paul nous évoque aussi ce mystère-là, avec la question de la faute du premier Adam, qui a fait entrer la mort dans notre vie, et bien évidemment la venue du nouvel Adam, le Christ, qui vient nous sauver. Et il évoque une dimension qui est fort intéressante sur notre chemin. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et d'une disproportion phénoménale. Il dit que ce n'est même pas la même mesure. Voilà, c'est vrai que le péché originel, tel qu'on décrit l'origine du mal, fait des dégâts. Mais la solution trouvée par Dieu via le Sauveur Jésus-Christ a une réponse vraiment phénoménale, beaucoup plus grande que ce qu'aurait pu espérer Adam en restant simplement dans le paradis. Puisque la finale, c'est que nous allons vivre pleinement en Dieu. Du coup, on peut s'intéresser à ce côté où là, j'arrive pas. Là, je suis en butte sur tel ou tel aspect de mon caractère, de mon tempérament, de mon histoire. Et est-ce que je reste bloqué là-dessus? Ou est-ce que je découvre, par la grâce de Dieu, par le salut du Christ, que ça va me permettre de développer tout un positif. Je pense à un truc tout simple. Quelqu'un qui a été marqué, par exemple, par l'alcoolisme, qui est capable de s'en sortir, et qui ensuite va être capable d'être un appui pour beaucoup d'autres qui doivent s'en sortir, qui va leur permettre d'être en vérité, de trouver les étapes nécessaires pour avancer. Donc oui, le point de départ est négatif, mais une fois qu'on fait face, une fois qu'on fait confiance, et une fois qu'on avance sur le chemin de la vie, on peut être des relais pour bien du monde. Nous avons donc à avancer sur ce chemin de la vie où nous voyons déjà poindre la lumière du Christ. Osons reconnaître que nous sommes pécheurs, demander cette grâce qu'il mette loin de nous et même loin de ses yeux tous nos péchés, lui qui les met loin derrière lui, pour nous rappeler que avant d'être des pécheurs, nous sommes ses enfants, fils et filles de Dieu, bien-aimés du Père. Le Christ fait de nous ses frères et ses sœurs, soyons dans la joie de nous avancer dans cette liturgie qui nous rapproche de Dieu.